Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Et voici en grande pompe la présentation de cette grille d'été. Quelle grille ! Bonjour Sandrine Trainer.
Bonjour Guillaume.
La directrice de France Culture est là pour vous présenter en quelques mots cette grille d'été, Sandrine.
Écoutez, en quelques mots, c'est un peu comme s'il n'y avait pas une pandémie mondiale qui nous était passée dessus. Nous sommes en mesure, à partir de lundi, de présenter une grille d'été qui, de la même façon que nos autres étés, mais de manière, je dirais, encore plus brillante, va proposer de grands formats. De grands formats en fiction, de grands formats en documentaire, de grands portraits, de grandes séries musicales. Un été plein d'évasion géographique, on en a besoin, culturel, musical évidemment. Mais on va aussi vous proposer aux auditrices et aux auditeurs de sentir et de penser le monde. Il sera question des États-Unis, pas mal sur cette grille d'été. Et puis, une grille d'été aussi assez politique avec des grandes traversées. Vous savez, ces formats qui nous occupent à partir du 20 juillet, du lundi au vendredi, 10 heures par semaine. On prend une grande figure qui résonne d'une manière ou d'une autre pour nous et on va regarder ce qui se nichait dans ces reins et son cœur.
Voilà, les reins et les cœurs sondés, par exemple, pour deux personnages ici représentés dans ce studio. Judith Pérignon, bonjour.
Bonjour.
Vous avez sondé Margaret Thatcher.
Le cœur de Margaret Thatcher, ce qui est pas facile.
Elle en avait un, donc...
Je sais pas, voilà, mais en tout cas, c'est une question qui est posée à travers cette grande traversée.
Et à côté de vous, Simonetta Greggio, vous, il s'agit de Brigitte Bardot, pour laquelle donc vous avez développé une grande traversée. Elle avait un cœur.
Et là, c'est pas facile non plus. C'est pas Margaret Thatcher, je vous assure, ça vaut le détour.
Et puis toujours parmi les participants à cette grille d'été, François Sureau. Bonjour François Sureau.
Bonjour.
Vous êtes avocat et écrivain. Nous sommes vus il y a peu de temps pour l'ouvrage que vous publiez chez Gallimard, L'or du temps, et vous allez produire pour France Culture Un voyage, la Seine et nos amours. Mais avant, quand même, maître, je dois vous poser une question. Il paraît qu'il y a des avocats qui sont écoutés en France.
J'étais sûr. J'allais vous répondre, écoutez, lâchez tout ça, c'est les vacances, déconfinez-vous, y compris en politique, lâchez tout, partez sur les routes.
Enfin, mais ça vous plaît, j'imagine, d'être entendu quand même.
Mais enfin, si vous voulez...
Pour une fois.
C'est amusant parce que hier, j'enregistrais un truc là-dessus à propos d'un clochard de Troyes, un clochard célèbre qui était un avocat, qui avait cessé d'être avocat pour vivre à la cloche sous les ponts de Paris. Et j'avais un petit développement qui consiste à dire globalement, et vous aurez ma réponse, qu'il y a deux moments sinistres pour la démocratie. C'est le moment où les autorités administratives, policières, judiciaires demandent leurs sources aux journalistes. Et c'est le moment où les avocats sont écoutés lorsqu'ils parlent à leurs clients ou lorsqu'ils parlent entre eux. Nous en sommes exactement là.
Bon, vous n'allez pas parler de cela dans la série que vous allez nous permettre d'entendre sur France Culture. Là aussi, vous serez écouté, François Sureau. De quoi allez-vous nous parler ?
C'est un voyage. Je suis encore sous le coup de l'émotion parce que ça fait quelques jours, d'ailleurs maintenant, je me promène pour cette série sur la Seine. C'est un voyage qui consiste à remonter la Seine de l'embouchure de la source, à source Seine jusqu'à l'embouchure, et de parler de tout ce qui est extraordinaire et que les lieux inspirent. Alors la maison de Rachi à Troyes, la mort d'Apollinaire, boulevard Saint-Germain, la remontée d'Arsène Lupin avec ses sacs d'or au moment du Triangle d'Or, l'embarquement de Gauguin pour le Havre, et à chaque fois on se met devant un lieu particulier, et ce qui est frappant, ça m'a frappé moi-même, j'avais pas vu certains de ces lieux depuis des années d'ailleurs, c'est la quantité incroyable de poésie, d'évasion et de voyages qui s'en dégagent. Par exemple, Apollinaire, vous savez, la religion est restée jeune comme les hangars de port aviation, vous mettez à Villy-Châtillon, vous regardez l'ancien terrain de port aviation qui a complètement disparu maintenant. Il n'en reste que le mess des officiers, un petit bâtiment à colombage. C'est là où Apollinaire a écrit les premiers vers de Zone. Et quand vous êtes devant, honnêtement, vous avez l'impression qu'il va sortir. Et je dis pas ça par un goût tout à fait surréaliste pour les apparitions et pour l'entrée des succubes. Mais c'est assez fascinant. C'est une expérience que j'ai faite et pendant toute cette remontée de la Seine. Et j'espère que j'arriverai à la faire partager.
La Seine et nos amours, ça sera tous les jours dans les matins d'été à 7h12. François Sureau, on débute comment et où ?
On débute à Source Seine. Alors Source Seine, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que d'abord ça montre un truc très français qui est la victoire absolue sur l'administration. Source Seine, c'est près de Dijon, à 40 km de Dijon. Quand on arrive dans cette espèce de petit vallon, il y a une espèce de grotte qui ressemble à une grotte du parc Monceau, une petite grotte de Lourdes avec la déesse Sequana. C'est absolument minable d'ailleurs. Hein. Il y a une petite source qui fait glou glou glou. Il y a le premier pont de la Seine qui passe sur un ruisselet qui est à peine un marécage. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on rentre là-dedans, dans un domaine qui s'appelle Ville de Paris, source de la Seine. Car en vertu d'un acte d'administration de 1864, la source de la Seine appartient administrativement à Paris. Alors c'est l'occasion évidemment de closer sur un pays extraordinaire où l'administration commande au réel absolument en permanence et même au fleuve. Par ailleurs, après ayant fait ça, on passe vers... on prend la route de Châtillon-sur-Seine et on parle de tas de choses qui sont passées sur la route de Châtillon-sur-Seine. C'est assez immense... forêt médiévale qui abrite le Girard de Châtillon, un centre de grands romans médiévaux, et puis aussi une sorte de chanson de gestes contemporaine, puisqu'à 40 kilomètres en aval, vous avez à Aftrac marqué Tchad, puisque la première division française libre est remontée en suivant le cours de la Seine pour aller libérer Paris, enfin passer par Paris qui avait été libéré par Leclerc et ensuite envers l'Allemagne. Et ce Aftrac sur lequel il y a marqué Tchad au milieu de la forêt de Girard de Châtillon à deux pas du parc des Buttes Chaumont, c'est une partie de la magie française. Tout
finalement, vous allez finir par y arriver, maître, à créer une civilisation séquanienne, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler.
Ah non, pas du tout. D'ailleurs, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que, je vais pas dire que la Seine est un prétexte, il y a une poésie folle dans la Seine, hein. Les impressionnistes, toutes sortes de petites choses rassemblées dans la Seine, mais ce qui est extraordinaire, c'est que la Seine, en fait, c'est un fleuve de hasard, c'est pas le Danube, c'est pas le Rhin, enfin, à mes yeux, du moins, il n'a rien de structurant. Il nous fait, en revanche, mesurer, à la fois la grâce et l'incroyable hasard d'être né là. Et je pense qu'entre tous les peuples, les Français, il n'y a pas lieu de se réjouir d'être né ici plutôt que là. Ça m'a toujours fait rire. On dit, je suis fier d'être ceci, fier d'être cela. Ça n'a aucun sens, tu n'y es pour rien. Mais en réalité, ce qui est merveilleux chez les Français, c'est la manière dont on peut se réjouir d'un hasard qui vous a fait naître dans ce pays, finalement, incroyablement insaisissable, difficile, impossible peut-être à définir, et réfractaire à toute idée d'identité nationale au sens classique du terme. Et ça, on le sent en remontant le cours de la Seine, parce que ce fleuve n'est rien d'autre que le rassemblement de tous les esprits qui ont autour de lui voulu rêver d'évasion, voulu y venir, voulu s'en aller, voulu faire autre chose.
On vous retrouvera donc, François Sureau, dès lundi à 7h12, La Seine et nos amours. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, L'or du temps, aux éditions Gallimard. On va passer de la Seine à la Tamise avec vous, Judith Pérignon, pour cette grande traversée que vous allez consacrer à Margaret Thatcher. On en écoute un extrait.
Des Européens, on ne peut pas parler à des Européens. On n'a plus le droit.
We are working on a documentary about the Thatcher's years.
Thatcherite Britain.
Thatcher, I'm a product. La grandeur de l'Angleterre. Je suis le produit de l'Angleterre de Thatcher. J'étais un gamin quand elle était première ministre. J'étais fier d'elle, de ce qu'elle faisait. Elle encourageait le business, mettait en avant les gens qui se bougeaient le cul et se mettaient au boulot. C'est tout ça qu'elle défendait. Et dans mon premier job, je me rappelle, je voulais en être de l'Angleterre de Thatcher. Il fallait bosser dur pour ça.
3 mètres plus loin, même question. Eux sont de passage dans la capitale.
Une sorcière. C'était une vieille sorcière.
Elle a délibérément détruit des régions.
Elle a décimé le nord-est de l'Angleterre.
C'était son intention.
Elle a délibérément décimé des régions qu'elle n'aimait pas, qui ne votaient pas pour elle.
Liquider l'industrie.
Elle a du sang sur les mains.
Un un extrait de La Grande Traversée, Judith Pérignon, que vous avez consacré à Margaret Thatcher. C'était par amour que vous avez décidé de faire son portrait?
Non, c'est né d'une discussion avec Sandrine et je me souviens, la question m'a été posée.
Discussion privée,
on m'a dit, as-tu besoin d'une sympathie pour ton sujet? J'ai dit non. Donc à partir de là, on pouvait commencer.
Vous n'en aviez pas donc?
Pas beaucoup.
Pourtant,
non.
C'est une femme courageuse, une femme dotée d'une certaine volonté.
À la volonté, on ne peut pas lui enlever. La détermination, ça, c'est, elle est d'un bloc. Et elle ne ment pas sur ce qu'elle est. Et voilà, elle n'a pas de communicant, cette femme. Hein, c'est pas une, elle y va.
Elle avait un projet.
Elle avait un projet, elle avait des mentors aussi. Hein, parce que c'est une femme qui émerge, une jeune conservatrice, bon chic, bon genre, mais plutôt issue des classes moyennes. Hein. Mais il y a comme ça des idéologues du parti qui vont la prendre en main et lui faire lire comme ça toutes les théories libérales qui ont affronté les théories keynésiennes du début du XXe siècle et vont orchestrer cette revanche finalement sur le début du XXe siècle où l'État-providence a gagné après les récessions, les guerres, et elle va arriver armée comme ça idéologiquement et armée aussi de ce tempérament et des enseignements de son père pour imposer une espèce de politique inflexible de détricotage.
Mais si vous deviez la défendre, que diriez-vous sur elle? Alors c'est un silence. C'est vrai?
Oui, vraiment. C'était.
Le vraiment, personnage vous paraît indéfendable?
J'ai cherché. Et je peux vous dire que le livre le plus dur sur Margaret Thatcher, c'est les mémoires de Margaret Thatcher. Enfin, après, on lit ça avec son éducation, sa sensibilité, mais qu'on cherche le féminisme, qu'on cherche quelque chose dans la jeunesse, qu'on cherche... vraiment, elle est viscéralement très conservatrice. La première loi qu'elle défend en tant que jeune...
Mais ça n'est pas nécessairement un défaut, je veux dire. Non, on peut apprécier un personnage,
mais le personnage,
bien qu'il soit conservateur.
Oui, mais elle, par exemple, on a interviewé beaucoup ses ministres, ses collaborateurs, qui disent qu'elle n'avait pas d'humour, elle était très très dure.
Quand elle était... on en a des quantités à vous proposer dans ce domaine-là.
On trouve pas le jardin secret, on trouve pas la fêlure. On trouve effectivement quelque chose qui se construit dans sa relation à son père, qui n'a pas eu de fils, un prêcheur méthodiste, un épicier. Et on sent que les enseignements et sa vision du monde se créent dans cette petite ville de Grantham dans les Midlands, où il y a pourtant une population très pauvre, hein, puisque c'est la récession des années 30. Mais c'est un rapport à la société qui est très clivant, très très clivant.
Alors Sandrine Trainer, pourquoi vous avez décidé de demander à Judith Pérignon ce portrait de Margaret Thatcher, sachant que le monstre qu'est Margaret Thatcher, selon Judith Pérignon?
Non mais, en l'occurrence, il ne s'agissait pas du tout de faire le portrait d'un monstre. Mais il semblait, là pour le coup, dans le monde d'avant, c'était à l'automne dernier, ce que Margaret Thatcher avait installé en Angleterre avait au fond compté de manière extrêmement importante dans les décennies qui ont suivi pour l'ensemble de la planète. Donc c'était de remonter à la source d'une conception du libéralisme et du conservatisme. Ça nous intéressait beaucoup. Et puis par ailleurs, il faut dire que quelques jours avant, j'avais également commandé, je crois qu'on l'entendra, à Christine Le Cerf, une grande traversée. En l'occurrence, elle m'avait proposé de faire un Karl Marx. Et puis on avait Anaïs Kien qui faisait un Frantz Fanon pour remonter à la source de l'anticolonialisme. Et il me semblait que Margaret Thatcher était vraiment une personnalité très intéressante à ausculter. Et puis par ailleurs, il se trouve que Judith Pérignon est à la fois un auteur et quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Et on se disait, avec Margaret Thatcher, on écoutera de la bonne musique.
Et oui, on en a entendu d'ailleurs un extrait de cette bande-son. Avec Karl Marx, je ne sais pas si ça sera la même chose. En tout cas, France Culture fait vivre le pluralisme. On va écouter immédiatement un extrait de cette grande traversée que Christine Le Cerf consacre à Karl Marx.
La couleur préférée. Je dirais rouge, je ne sais pas. Rouge, c'est la couleur de l'espoir, du combat.
Spontanément, je l'associe aussi au rouge, parce que j'ai les images de lui aux différents congrès de l'international, bardés de drapeaux rouges, tels qu'ils sont représentés par les peintres soviétiques, du réalisme soviétique, qui présentent toujours Marx, entouré, écouté de toutes et de tous à la tribune, alors qu'en réalité c'était un très mauvais orateur et qu'il laissait plutôt parler Engels.
La couleur préférée de Marx, quand même le rouge. Das Rot, doch trotz allem. wegen der Kirschen, wegen des Frühlings, aber leider auch wegen des Blutes, ja. À cause du sang, à cause des cerises et à cause des drapeaux quand même, oui.
À 8h37, France Culture dévoile sa grille d'été et nous sommes en compagnie de Christine Le Cerf. Bonjour Christine.
Bonjour Guillaume.
Donc vous, vous avez donné corps à cette grande traversée consacrée à Karl Marx. Elle sera diffusée le 20 juillet de 9h à 11h du lundi au vendredi. Bon, vous au moins, vous allez réussir à défendre Karl Marx.
Mais il n'a pas besoin de moi pour ça. Ce que je voudrais dire,
il a été critiqué en son temps et même après, vous savez, Christine.
Mais alors, il fait comme d'habitude et comme par vagues récurrentes, il fait son grand retour. Mais ce que j'ai voulu avant tout analyser, c'est à combien nous ne connaissions pas Marx. J'ai d'ailleurs intitulé ma grande traversée « Karl Marx, l'inconnu ». Parce qu'au fond, comme on vient de l'entendre, de Marx, on n'a vraiment qu'une image. Et c'est essentiellement celle qui a été forgée au XXe siècle, à coups de slogans, de statuts, de partis et de dogmes. En fait, on a saccagé Marx tout au long du XXe siècle. Et on pourrait presque dire que le XXe siècle a été un siècle du marxisme sans Marx. Et moi, j'ai voulu traverser ce champ de ruines pour aller à la recherche d'un Marx sans barbe et sans parti.
Quelles sont les idées fausses alors que vous avez eu cœur de dénoncer dans cette grande traversée Karl Marx, Christine Le Cerf?
D'abord qu'il n'a pas écrit l'idéologie allemande, par exemple. C'était un texte qu'il avait, c'était même pas un texte, c'était des feuilles qu'il avait noircies avec des copains, Engels et d'autres. C'était des joutes qu'ils avaient laissées ensuite moisir dans les tiroirs, et on en a fait un livre qui est devenu la Bible du matérialisme, par exemple. Ou encore que Marx a d'abord été un jeune poète romantique.
Bon, mais...
Ou alors encore qu'il a passé sa vie avant tout à être un grand journaliste et notamment pour la presse américaine.
Bon, mais on peut lui adresser beaucoup de critiques. Je ne sais pas, par exemple, il a pu défendre sa vision du communisme en se servant d'Engels et donc en se servant du Grand Capital. Son antisémitisme était tout à fait présent dans la question juive.
Alors, j'aborderai cette question avec Shakespeare et avec Le Marchand de Venise. Pour Marx...
La livre de chair était...
Et voilà. En fait, Marx est un grand écrivain. Vous savez que c'était un père de famille absolument formidable qui se mettait à quatre pattes et qui racontait le Capital à ses enfants en leur inventant une histoire de pacte d'un magicien avec le diable. Et le Capital, vous le verrez dans cette grande traversée, c'est un grand roman policier, une grande énigme de ce qu'est le profit, l'exploitation, l'argent, mais aussi l'homme, mais aussi le monde. Donc, il faut vraiment penser, enfin je pense que avec cette grande traversée, et c'est peut-être un scoop, le 21e siècle sera peut-être enfin le siècle de Marx, dont la révolution a été moins d'aller sur les barricades que de balancer des livres missiles, comme il disait, c'est-à-dire d'être un révolutionnaire de la pensée.
On va retrouver donc votre grande traversée, Karl Marx, Judith Pérignon, Margaret Thatcher aussi. C'était une bonne mère pour ses deux enfants, même s'il a eu des déboires, je crois, avec Marc.
Oui, oui, oui. Marc a fini devant les tribunaux pour marchés illicites en Afrique et... Oui, ses enfants sont assez le reflet des années Thatcher aussi.
Sandrine Trenner, nous poursuivons ce dévoilement de la grille d'été sur France Culture.
Je ne sais pas, en vous écoutant, tout d'un coup, je pense à une autre série qui sera à l'antenne de France Culture, qui a été faite par une de nos nouvelles journalistes de la rédaction. Ça s'appelle « À la recherche de Kermit Oliver ». Kermit Oliver, vous le connaissez pas, son nom ne vous dit probablement pas grand-chose. C'est un descendant d'esclaves, un fils de cow-boy, étudiant en plein mouvement des droits civiques. Il est devenu le premier artiste noir à exposer dans une grande galerie de Houston et le premier américain à dessiner des carrés Hermès tout en restant postier. Alors, il ne parle pas, cet homme-là.
C'est vrai que
Et Anne Lamott est partie au Texas. Et elle a remonté le fil, elle a remonté le fleuve, dirait François Sureau, jusqu'à Kermit Oliver. Donc, ça s'appelle À la recherche de Kermit Oliver. Et ça fera partie, j'en suis sûre, des programmes de cet été qui retiendront l'attention. Je voudrais en profiter aussi pour citer le travail, puisqu'on parlait des portraits documentaires. Ce sont évidemment des portraits servis par de grandes plumes et de grandes voix qui travaillent pour France Culture, aussi par de grands réalisateurs qui savent travailler cette matière. Vous savez, comme on le fait à France Culture et nulle part ailleurs. Et peut-être donc citer Franck Lilin, qui est le réalisateur de Karl Marx, citer Gaël Gillon, qui est celui... Oui. Qui est celui de Margaret Thatcher, et Vincent Deck, qui en ce moment descend le cours de la Seine avec François Sureau.
Simonetta Greggio, vous avez décidé de vous lancer dans une grande traversée en compagnie de Brigitte Bardot. On écoute un extrait.
J'arrive pas à imaginer que je suis Brigitte Bardot. J'y pense pas. De temps en temps, je m'en rends compte, j'ai une prise de conscience. Et là, je me dis, bon, il faut quand même vraiment que je sois sérieuse, que je fasse mon métier sérieusement, parce que je représente quelque chose d'important.
La voix de Brigitte Bardot. S'attaquer à un mythe de cette manière-là, Simonetta Greggio, là aussi, qu'avez-vous appris sur Brigitte Bardot ?
Plein de choses. Déjà, on décrypte complètement un siècle. Elle est née en 34, nous sommes en 20, elle a traversé le siècle, donc elle a jeté son éclairage. Et puis, quoi qu'il en soit, c'est quand même une femme exceptionnelle. Il est vrai que maintenant, son image a été... ternie par ses dernières dérives, etc. Mais il y a une chose qui sort de nos interviews, c'est est-ce qu'on est ce qu'on fait ou est-ce qu'on est ce qu'on dit ? Et Brigitte Bardot a été le précurseur de la défense animale en France. Elle a donné quand même son nom à certains décrets de loi qui étaient totalement en avance sur le siècle carrément. Donc moi j'ai découvert une femme passionnée, passionnelle, franche, libre, casse-pied, méprisante, star à tous les effets. Et comme le dit David Teboul dans un magnifique documentaire qu'il lui a dédié, elle a contredit son destin. Cette femme, réellement, est allée chercher son destin là où il n'était pas. C'était une petite fille née dans la très bonne bourgeoisie française. Elle avait un appareil sur les dents un peu écartées. Elle était un peu myope, elle avait une ambilopie. Vous savez, c'est un œil qui regarde d'un côté, un œil qui a le fameux strabisme de Vénus. Voilà, donc c'est une fille qui a été chercher une destinée exceptionnelle.
Ce n'est pas forcément une femme qu'on trouve toujours sympathique, Simonetta Greggio.
Mais oui, mais c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme cette tante que vous avez à table à Noël, que vous avez adorée parce qu'elle était sublime, et puis que de temps en temps, sbrocca, comme on dit en italien, elle lâche complètement un truc qui sont mauvais, et on se dit, on l'aime quand même. Et c'est vrai qu'on l'aime quand même. C'est vrai parce que elle a été divine. Alors, Sandrine Trenner aime mieux Audrey Hepburn. Moi aussi, quelque part, je trouve qu'elle a une élégance et elle a fait quelque chose d'autre. Mais Brigitte Bardot est profondément romanesque. Alors, pour un écrivain comme moi qui est quand même un peu old-fashioned, j'adore ça. C'est un côté tellement charmant, tellement fou, tellement pop, tellement jerk, tellement Colette, tellement Sagan, tellement Saint-Tropez. Vous savez, il n'en faut pas plus pour une petite Italienne qui arrive à Paris d'être complètement éblouie, d'avoir les petites étoiles dans les yeux.
Comment est-elle perçue en Italie ?
Ben, on l'adorait. Et puis surtout, elle a eu une toute petite histoire de 2 mois avec un playboy italien qui s'appelle Gigi Rizzi, qui était absolument divin. Elle aimait beaucoup les beaux garçons, donc je la comprends un peu. Et les Italiens disaient « Brigitte sarà nostra, Brigitte sarà nostra ». Et il a eu une histoire de 2 mois.
Ah, ils l'ont dit brièvement, quoi.
Voilà. Mais néanmoins, ça a été un peu... Pendant un instant, on a cru que Brigitte sarà nostra.
Sandrine Trenner.
Non, encore que là-dessus, j'aurais
vous
beaucoup de choses à dire.
Avis, mais...
Leur avançant, dire qu'en contrepoint de ces femmes-là, très différentes les unes des autres, nous avons aussi une grande traversée qui a été écrite par Geneviève Brisac avec Jean-Philippe Navarre à la réalisation et qui est consacrée à une autre inconnue, une vraie inconnue, trop inconnue, qui est la poétesse Anna Akhmatova, à travers laquelle nous allons visiter la poésie russe et le sort tragique des poètes russes sous Staline.
Et puis la cinquième grande traversée qui, elle, sera consacrée à Frantz Fanon. Et puis également, toujours sur cette grille d'été de France Culture que nous vous proposons aujourd'hui, nous vous proposons de la découvrir. Philippe Vasset, bonjour. Philippe Vasset est là, apparemment.
Absolument.
Voilà.
Tout à fait.
Pas seulement
bonjour.
Là, dans les terres, vous êtes là également en ligne avec nous et vous allez produire cet été Les Nouveaux Corsaires, autrement dit la saison 2 du Monde des Espions. Que va-t-on découvrir dans cette seconde saison?
Eh ben, en fait, dans la première saison, on avait un peu fait le tour du monde de l'espionnage en demandant aux maîtres espions ce que faisaient les hommes politiques des informations qu'ils leur amenaient. Et cette fois-ci, on a diamétralement inversé la focale, en fait, et on a montré comment le monde du secret, en fait, sert souvent de laboratoire politique et économique, et que c'est aussi l'endroit où l'État se retire. Et on montre, en fait, qu'aujourd'hui, bah, beaucoup de choses qui étaient autrefois faites par des agents de l'État sont faites par des entreprises privées.
Par exemple
il suffit de regarder la Libye aujourd'hui. Il y a une guerre en Libye, mais en fait, il n'y a pas de soldats. C'est des armées privées qui s'affrontent. Les Russes de Wagner, les Turcs de Sadat, etc. Et donc, nous, en fait, on montre tout l'été, on fait des portraits de ces personnages, en fait, qui sont les nouveaux corsaires d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui font la guerre pour le compte des États, ceux qui opèrent des flottes d'avions de combat pour le compte des États, ceux qui font de la surveillance des côtes et des mers pour le compte des États, ceux qui font des écoutes pour le compte des États, ceux qui piratent des boîtes mail pour le compte des États, voilà.
Donc on va retrouver ça tout l'été grâce à vous dans cette saison 2 du Monde des Espions, Les Nouveaux Corsaires, Philippe Vasset, Sandrine Trainer. Il y aura d'autres choses à entendre, bien sûr, sur cette grille d'été de France Culture.
Bien sûr, énormément de choses. Je renvoie les auditrices et les auditeurs à notre site. Et puis, on va faire en sorte de faire entendre, voilà, toutes les propositions peut-être citées. Évidemment, les grandes fictions avec lesquelles nous allons passer l'été. On aura le temps de parler d'un rêve d'Avignon, du programme d'Avignon à Paris au 104 de la Maison de la Radio qui commence le 6 juillet par l'adaptation de l'extraordinaire roman d'Edna O'Brien, Girl, avec notamment Barbara Hendricks. Mais vous dire que dès lundi, vous retrouverez deux grands feuilletons avec lesquels vous allez passer l'été. Le mystère de la chambre jaune, que je ne présente pas. Et puis Millennium, l'intégrale de Millennium, les trois volumes de Millennium adaptés par le formidable service de la fiction de France Culture. Vous dire que Pétrarque aura lieu, non pas à Montpellier cette année, les rencontres de Pétrarque, mais à la radio CRV Gardette sur le thème de la mondialisation. Ça commence également lundi à 18h15. Vous dire aussi que vous retrouverez tout l'été ce format, vous savez, qu'on a appelé « Avoir raison avec ». On va chercher des penseurs dans l'histoire et on regarde le monde à travers ces penseurs. Cet été, nos « Avoir raison avec » sont consacrés à 8 penseurs américains, en prévision évidemment de l'élection américaine. Et ça commence avec Emmanuel Laurentin. Dès lundi également. Et puis, évidemment, beaucoup d'informations sur l'antenne d'été, des matins d'été. Vous commencez, je crois, la semaine prochaine. Mais ensuite, c'est Chloé Cambrelin qui prend le relais. Un magazine d'été plus culturel à la mi-journée. Là, le temps du débat l'été. Et puis, des magazines du week-end consacrés également à l'information. Je manque plein de choses, de la musique à 15h. Voilà, vous aurez tous l'occasion de découvrir ce rêve de grille d'été à partir de lundi sur l'antenne de France Culture.
Voilà, tout est disponible sur le site. Merci à Simonetta Greggio de nous avoir présenté son Bardot qui va être diffusé dans la Grande Traversée, ainsi qu'à Judith Pérignon pour Margaret Thatcher, 8h51 sur France Culture. Dans quelques instants, mes camarades Hervé Gardette et Mathilde Sérel vont s'élancer